jusqu'à 15h. Vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
Dans cette troisième heure, Martin McGuire va venir nous parler du match du Canadien de ce soir contre les Flames. On en profitera pour vous dévoiler le finaliste du jour pour la paire de billets. Finaliste du jour parce que le gagnant... Ah, c'est le gagnant aujourd'hui, on est jeudi. Oh là là! Oh, il faut rester à l'écoute. La voix est libre, évidemment, viendra faire son petit tour. Bonne et mauvaise nouvelle du jour. Mais d'abord, ce livre signé Alain Pronkin, qui succédera au pape François dans les coulisses du Vatican. Alain Pronkin, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors écoute, ça fait plusieurs entrevues que toi et moi on fait sur le sujet. C'est vraiment une passion pour toi. Tu es très, très bien informé. Tu suis la scène vaticane, je pense que ça se dit, avec beaucoup, beaucoup d'attention. Quand on regarde les notes de fin d'ouvrage, toute ta documentation, c'est extrêmement rigoureux comme recherche. C'est peut-être pas la première question que tu attendais, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu crois que Monseigneur Ouellet, est-ce qu'il a des chances de succéder au pape François?
La question la plus difficile.
C'est vrai?
Il faut pas que je lise.
Je commence par la question la plus difficile, mais je ne savais pas quelle était.
Parce qu'il ne faut pas que je dévoile le punch du livre. C'est comme dire le punch de l'histoire, mais d'une façon plus sérieuse. Il est dans mes finalistes. Il est dans mon... On va y aller sur le top 16.
Le top quoi?
Le top 16.
16, c'est beaucoup le top 16.
Tu peux pas sur 120, c'est quand même...
120 cardinaux?
120 cardinaux qui ont le droit d'aller voter. Il est dans le top 16. Puis là-dedans, ce qu'il y a dans le livre, c'est que j'essaie de... Je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour nous, de l'extérieur, savoir qui a des chances de devenir pape?
Oui.
Et ça, c'est arrivé ici, dans les studios du 98.5, parce que j'étais assis, puis on faisait plusieurs entrevues avec Paul, avec l'autre Paul,
Là,
on se posait la question, on se disait... est-ce qu'on a un guide? Comment est-ce qu'on fait pour choisir un pape? Et je me suis aperçu, on sortait des noms, Schoenborg, on sortait Ouellet, on sortait... Et on n'avait pas de point de repère. Et là, je me suis dit, il faut avoir des points de repère. Fait que pendant 16 mois, j'ai essayé de trouver des points de repère. Et là, j'ai...
Pour préparer cet ouvrage, tu veux dire?
Oui, okay. 16 mois de travail.
Pour essayer, de ramener... la réflexion autour de quelques candidatures, c'est ça?
Possible.
C'est pour ça?
Et d'arriver à une discussion. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai regardé tous les conclaves à partir de 1878, qu'on peut qualifier l'époque moderne au niveau des conclaves, au niveau des papes. Et j'ai remarqué qu'il y en avait juste un avant François qui n'avait pas un doctorat. Fait que là, je me dis, pour devenir pape, on dirait que ça prend un doctorat pour avoir de l'ascendance sur les autres personnes.
Ça.
J'ai regardé, il faut rester...
Ça prend un théologien.
Parce que c'est Benoît XV à l'époque, il n'avait qu'un premier cycle. Et on l'a toujours traité du pape qui n'a pas de doctorat. Jusqu'à François. François avait un deuxième cycle. Mais il était en route pour son doctorat, mais les Juifs ont dit, il faut que tu reviennes, on a besoin de toi. Mais il était quand même en route pour un troisième cycle. J'ai regardé, il faut être combien de temps cardinal pour devenir pape? Il faut être dans quel groupe d'âge pour devenir pape? Avec des choses extérieures. Et c'est là que j'ai constaté que le cardinal Ouellet, au dernier conclave, il n'avait aucune chance. Il était beaucoup trop jeune. Il n'avait que 68 ans.
Hello.
Et quand tu regardes la moyenne... Pour le prochain conclave, on l'a dans 2 à 3 ans, 92 des 120 cardinaux vont avoir plus de 70 ans. On est loin de l'époque où Jean-Paul II a été élu à 58 ans, où il y avait une bonne vingtaine de cardinaux qui avaient autour de 60 ans. Là, il n'y en a plus. Et c'est pour ça que les deux derniers papes, quand on regarde François, 76 ans, Benoît XVI, 78 ans, c'est des gens âgés. Mais 92 des gens qui votent ont ça. Écoute, il y a des cardinaux qui vont se présenter au prochain conclave, Bernard, qui n'étaient même pas nés au moment de Vatican II. Et c'est
ça
la mémoire. C'est la mémoire. De quoi on se souvient? On se souvient de quoi? Je donne toujours l'exemple. Si j'ai fait la guerre mondiale, j'ai une réalité, j'ai une mémoire de la guerre mondiale. Personnellement, j'ai pas connu la guerre mondiale, sans doute pas toi, Bernard, mais on a une connaissance historique. On sait pas c'est quoi la guerre des tranchées, avoir des bombes au-dessus de nos têtes. On le sait pas. On le sait par les films, on le sait par les photos, on le sait par les... On a une mémoire historique. Mais la mémoire de ces gens-là... Donc, les gens qui ont la même mémoire ont un peu le même langage, ils se comprennent entre eux.
OK, mais dis-moi, Alain, je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, puis qui se disent, pourquoi c'est important de se poser la question qui succédera à François. Là, tout à l'heure, tu as glissé ça comme vite dans une phrase. Oui. Tu as dit ça va arriver dans 2 ou 3 prochaines années.
Oui.
Je t'ai bien entendu dire ça.
Tu m'as bien entendu.
Tu penses qu'il va démissionner?
C'est ce qu'il annonçait. Quand il est devenu pape, François a immédiatement dit, moi, ça va être un mandat court, environ 5 ans. Il faut s'entendre, une moyenne de...
Ça fait combien de temps qu'il est pape, là, François?
Ça fait 5 ans. Okay. Donc, on est dans ça. On sait que lui, il voulait reformer la curie romaine, ce qui est très difficile à faire, et c'est son dernier grand chantier. Une fois que son chantier va être fait... Puis en plus, là, le 17 décembre, il va avoir 82 ans. Son dernier chantier, il va peut-être prendre encore 1 an ou 2 ans pour le compléter. Il va avoir 83, 84 ans. Et lui, il a dit, moi, c'est un mandat court. Il a gardé ses billets de saison pour aller voir son club de soccer en Argentine. Il a gardé son passeport argentin.
En Argentine ou en Uruguay?
En Argentine. Ah, le pape est argentin. Et son équipe est en Argentine. Donc, lui, il se voit terminer ça. Et le seul pays qu'il n'a pas encore visité, ou un des rares pays qu'il n'a pas visité en Amérique du Sud, c'est justement son propre pays qui est l'Argentine.
Okay.
Donc, est-ce qu'il va y retourner? Sans doute, il a annoncé un mandat court. Donc, 5 ans, 6, 7 ans, il va avoir 84 ans, il va prendre sa retraite, il va devenir pape émérite parce que Benoît XVI lui a ouvert la porte.
Mais j'allais dire, les papes sont pas supposés, si on peut dire, mourir en poste?
Normalement, oui. Mais le pape Paul VI, aussi surprenant, lui a ouvert la porte. Lui, dans ses lettres, il a dit, si jamais je perds l'esprit, je perds la raison, je démissionne. Mais il l'a pas fait, il est mort. Après ça, bon, Jean-Paul I est mort après un mois, Jean-Paul II est mort, mais Benoît a ouvert la porte et a dit « On n'est pas obligé, je deviens pape émérite. »
Non, mais moi, je pense que c'est mieux comme ça.
C'est mieux comme ça. Et il ne faut pas oublier que notre pape est un jésuite. Et chez les jésuites, ce qu'on appelle le pape noir, le chef des jésuites,
oui.
Normalement, maintenant, même si lui aussi était nommé à vie comme le pape, très souvent, ils vont démissionner autour de 80.
OK. Alors, pourquoi c'est important de suivre ça?
Ce qui est important, parce que... il faut penser que c'est l'organisation qui est le plus établie dans le monde entier. Ils ont des prêtres, ils ont des évêques dans tous les pays du monde et des gens qui parlent la langue et qui sont nés dans ces pays-là. Ils ont une source d'information impressionnante. Ils participent aux différentes négociations. Asia Bibi, ils ont participé, ils ont dit...
Il Asia faut Bibi, la chrétienne au Pakistan.
Ouais. Le pape est intervenu personnellement. Ils ont essayé de faire des rapprochements entre Cuba et les États-Unis. Ils ont essayé de faire des rapprochements en Corée.
En Amérique latine, ils sont très importants. Au Nicaragua, la crise politique, oui. L'Église joue un rôle très important.
Partout. Donc, ils essaient de garder un rôle. On le voit moins, c'est beaucoup plus effacé au Québec. Mais ils sont un peu partout. Et ils sont une force politique importante et toujours d'actualité. Et c'est ça qui est important, parce que le prochain leader va avoir une influence. C'est certain que le pape a une influence.
Est-ce que tu penses que François va avoir réussi quand même à réformer un petit peu l'Église? La bataille qu'il mène contre la pédophilie, par exemple, au sein de l'Église, est-ce qu'il va en rester quelque chose? Quelles seront les 2 ou 3 grandes réformes ou réalisations de François? Parce que franchement, on a l'impression depuis un certain nombre de mois que le camp des conservateurs s'organise pour le bloquer, pour le ralentir et peut-être même pour le forcer à démissionner. Et là, on se dit jusqu'où ils sont prêts à aller, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont s'organiser pour faire élire un des leurs pour défaire ce que François a fait, qui est quand même un pape libéral?
Ça va être difficile. Parce que le
pape François... Ça va être difficile. Qu'est-ce qui va être difficile?
Parce qu'il a nommé des cardinaux. Parce que c'est ça la force de François qu'on s'aperçoit. Et d'où l'importance du livre, c'est qu'il a nommé ses cardinaux. Et les cardinaux qu'il nomme ne pensent pas comme les anciens. Et maintenant, quand on regarde les divisions, puis tu vas le voir, parce que c'est bien beau de dire qu'on a 2 clans, mais moi, je les nomme. Fait que dans un clan, ils sont 27. Et dans l'autre, ils sont 25 qui s'affrontent. Fait que c'est des...
Puis les autres, tu disais qu'ils sont...
Ben,
80...
c'est difficile. Et oui, mais il y en a 52 que j'ai été capable d'identifier sur les 110 qu'on connaît déjà. Mais c'est pas tout le monde qui parle. Mais on se rend compte que les dernières nominations de François sont différentes. Même si les gars sont âgés, ils ont une pensée beaucoup plus ouverte envers les LGBT. Ce qu'on n'avait pas dans les autres. Parce que tu as des cardinaux qui disent encore, ben, les homosexuels, ils doivent aller en prison. Tandis que du côté des dernières nominations de François, on est beaucoup plus ouvert, surtout les 3 derniers Américains.
C'est une bonne nouvelle.
Et c'est ça, c'est là-dessus que François a compris. François a compris que pour réformer l'Église, un seul homme n'arrivera jamais. Mais s'il nomme assez de cardinaux, ben, il va pouvoir y arriver. Mais ce qui est important, c'est que le prochain pape, une fois que celui qui va être élu, là, évidemment, il y a des suppositions, mais le prochain qui va être élu, il va avoir à nommer 92 cardinaux, parce qu'il y en a 92 qui vont disparaître dans les 10 prochaines années parce qu'ils vont atteindre plus de 80 ans. Il va en nommer 92. Donc, le prochain pape, ce ne sera pas juste un pape de transition, c'est un pape qui va pouvoir...
Un pape fondateur. Ça va être un pape fondateur.
Parce qu'il va en nommer 92. Il ne faut pas oublier que dans les
15
ou 20 qui restent, il y en a beaucoup qui ont été nommés par Benoît XVI et il en reste même par Jean-Paul II parce qu'eux avaient compris que si on nomme des cardinaux jeunes, on peut influencer l'Église longtemps.
Ben oui.
Et là, c'est ça. Donc,
alors, je te repose la question. Est-ce que l'héritage de François, un héritage plus libéral...
Va affecter. Au niveau de
l'accueil. Est-ce qu'il va lui survivre, cet héritage-là?
Si on a un pape qui est dans sa lignée, le prochain... Il va avoir un effet parce que
mais
là...
Marc Ouellet n'est pas dans sa lignée. Il me reste une minute.
Marc Ouellet s'est promené... Il est toujours du côté du pape. Parce qu'au début, il était contre le pape sur la communion, divorcé, remarié. Marc Ouellet a dit, écoutez, il a vraiment dit, moi, je suis maintenant du côté du pape. Il me garde Vigano récemment, l'archevêque, qui a dit, ben oui, mais Monseigneur Ouellet, t'es rendu, t'étais avec nous, les conservateurs, t'es plus là.
Ah oui, il a dit ça?
Oui.
Fait qu'il pourrait être considéré comme un réformateur susceptible de préserver l'héritage plus libéral de François.
Mais il ne faut pas oublier que le cardinal Ouellet est un gars du pape. Il est toujours pour le pape. Et c'est ça qui est...
Il se colle sur le pouvoir.
Il se colle sur le pouvoir. Mais est-ce qu'il a fait assez de déclarations importantes pour dire qu'il va amener l'Église ailleurs? Parce qu'il ne faut pas oublier, le prochain pape, sa mission, c'est de régler le problème des prêtres pédophiles.
François ne l'aura pas réglé, ça?
Il ne peut pas le régler. Il a travaillé fort pour le régler. Il a essayé de le régler, mais il n'est pas capable. Mais c'est un travail colossal.
Mais zinc, c'est un travail colossal.
Il y a deux prêtres français de 38 ans qui se sont suicidés il y a quelques semaines. Ils étaient accusés d'avoir agressé des jeunes filles. Le problème n'est pas réglé, Bernard.
Alain Pronkine, donc auteur du livre « Qui succédera au pape François dans les coulisses du Vatican ». Alain, je rappelle que tu seras au Salon du livre samedi.
Oui.
Hein? Et les gens donc pourront te parler, te rencontrer, acheter ton livre et le faire dédicacer. Merci, mon cher Pronkine. Dans un instant, Luc Lavoie s'amène avec la bonne et mauvaise nouvelle du jour.